Radio présente Enquête d'Europe.
Bonjour à tous, bienvenue sur Euradio. Je suis Guillaume Danjou, étudiant en Master 2 de Sciences Politiques de l'Europe à Nantes Université. Je réalise actuellement un mémoire sur la politisation du sujet traitant de l'influence des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques nationales. Cette émission sera consacrée à l'activité des cabinets de conseil privés à dimension européenne et leur lien avec l'environnement du consulting au niveau européen. L'objectif va être de comprendre cette question en mêlant le niveau local à l'échelle d'une ville comme celle de Nantes et l'échelle européenne. Il va s'agir de mieux comprendre l'environnement des cabinets de conseil agissant sur les questions européennes, les politiques évaluées, les méthodes employées, les interlocuteurs privilégiés, les pratiques et les interactions entre les deux échelles de l'action publique concernée. L'objectif va être d'apporter une analyse à la fois sociologique et politique entre un acteur de terrain et un chercheur spécialiste de la question afin de rendre accessible le sujet au plus grand nombre. Avant de vous présenter les modalités et la structure de l'échange à venir, le moment est venu pour moi de vous présenter les deux invités qui vont discuter cette question. La première est Maïté Cosnard. Vous avez fondé le cabinet Eléo Conseil, cabinet expert en montage de projets européens, en recherche et gestion de financement basé à Nantes. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et le second est Vincent Lebroux. Vous êtes docteur en sciences politiques et maître de conférences. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, Madame Cosnard, pouvez-vous vous présenter en quelques mots à nos auditeurs ainsi que l'activité de votre cabinet Eléo Conseil ?
Oui, bien sûr. Donc, j'ai fondé Eléo Conseil en 2008 dans l'objectif de permettre aux acteurs locaux de plus bénéficier des financements européens pour que ça irrigue plus le territoire dans l'Ouest, hein, puisque je suis basée à Nantes, donc Pays de la Loire, Bretagne, Normandie, région centre principalement. Et on travaille, depuis le début de l'activité, c'est vrai que l'activité a évolué, hein, mais on traite à la fois les fonds structurels, donc FEDER, Fonds Social Européen, un petit peu de fait en pas autour de la pêche, donc on aide des acteurs locaux à déposer des projets, donc les interlocuteurs sont locaux, hein, c'est principalement quand même les régions, et puis on intervient aussi beaucoup sur des programmes et des projets de politique sectorielle, notamment beaucoup ces derniers temps autour du programme Erasmus+, qui permet de faire beaucoup de choses et pas seulement de la mobilité étudiante. Donc on a énormément d'acteurs pour lesquels on travaille et nous, en ce moment c'est une grosse période de dépôt de projets cette semaine, la semaine prochaine, notamment sur Erasmus+. C'est pour ça que je vous parle beaucoup d'Erasmus+, que c'est notre quotidien.
D'accord, voilà. Très bien. Et Monsieur Lebroux, du coup, pouvez-vous à votre tour vous présenter à nos auditeurs ainsi que votre activité de recherche spécifique en lien avec l'expertise sur les questions européennes ?
Bien sûr. Merci déjà de m'accueillir sur votre antenne. Donc moi, je suis maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Franche-Comté. Et avant cela, j'ai réalisé une thèse de sciences politiques, une thèse de sociologie de l'action publique européenne, donc, sur la mise en œuvre de la politique de cohésion, principalement en France. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai été amené à m'intéresser un peu au rôle des cabinets de conseil, pour le coup, dans mon cas, plus sur le côté mise en œuvre de l'action publique, c'est-à-dire comment des cabinets comme celui de Maïté Cosnard, hein, accompagnent les porteurs de projets potentiels à l'échelon local. Donc, qui sont les personnes qui travaillent dans ces cabinets, qui défendent éventuellement, quel est leur travail quotidien et aussi, et peut-être qu'on en parlera aujourd'hui, quel est leur positionnement par rapport finalement à l'administration publique, notamment locale, dont c'est a priori le travail, mais qui recourt de plus en plus malgré tout à ces nouveaux professionnels de l'Europe que sont les consultants spécialisés en affaires européennes. Donc moi je précise d'emblée, je me suis plutôt intéressé à la politique de cohésion. Je serais sûrement moins capable de réagir sur Erasmus ou sur d'autres types de financement, mais j'espère pouvoir vous apporter un petit éclairage.
D'accord, très bien. Merci à vous deux pour votre présence. Pour rendre accessible notre discussion au plus grand nombre, nous allons partir de l'échelle locale avec un aspect pratique avant de monter en généralité avec des apports théoriques, notamment politiques et sociologiques. L'émission va être structurée en trois temps. Tout d'abord, nous allons évoquer les politiques traitées par les cabinets de conseil européens et leurs applications. Ensuite, nous allons évoquer les méthodes employées par ces mêmes cabinets, l'expertise apportée ainsi que le traitement des demandes. Et enfin, nous nous pencherons sur les interlocuteurs privilégiés ainsi que l'environnement institutionnel local et européen. À chaque fois, je vais donc vous poser une question à chacun d'entre vous et Vous allez disposer d'environ une minute pour répondre afin de rendre le sujet le plus clair possible pour nos auditeurs. Dans un premier temps, nous allons donc évoquer les politiques traitées par les cabinets de conseil européens et leurs implications. Nous reviendrons sur l'aspect purement technique dans un second temps. On le sait, au niveau national, les cabinets de conseil privés exercent une influence croissante sur les politiques publiques nationales. Mais qu'en est-il des cabinets de conseil spécialisés sur les questions européennes ? Madame Cosnard, pouvez-vous présenter justement l'activité spécifique de votre cabinet en lien avec la question européenne spécifiquement, donc vraiment les politiques concrètement que vous traitez au quotidien.
Alors, je vais vous parler de mon quotidien de cette semaine, par exemple. Donc nous, ici, nous sommes trois personnels à temps complet et deux alternantes. Donc, par exemple, pour vous donner des choses extrêmement concrètes, cette semaine, nous avons accompagné, on a tout un ensemble de clients qui travaillent, qui ont besoin du programme Erasmus+, donc des maisons, une école d'infirmières, des CFA. On travaille aussi avec plusieurs universités en France. Et donc, on est en train de les accompagner à déposer leur projet Erasmus+, puisque c'est quelque chose d'assez concurrentiel. Donc, il faut vraiment faire des candidatures très précises sur ce qu'on attend, en particulier des mobilités européennes. Donc, ça veut dire qu'on va aider à rédiger des candidatures pour que des jeunes en bac professionnel puissent aller faire des stages à l'étranger, pour que des personnes qui font un BPJEPS animation ou sport puissent aussi aller faire des stages à l'étranger, pour que des infirmières, infirmiers aillent faire leur étudiant, du coup, leur stage de 2 mois à l'étranger, pour que des universités, alors là l'argumentaire parce que c'est très très concurrentiel, puissent accueillir des étudiants du monde entier, par exemple d'Indonésie, du Sénégal, etc. Donc on travaille vraiment les argumentaires des universités pour montrer l'intérêt à la fois pour l'université, pour les étudiants, pour les enseignants, etc.
Et du coup, Monsieur Lebrou, pouvez-vous nous donner quelques exemples de cabinets de conseil basés directement à Bruxelles au niveau de la Commission européenne ou à Strasbourg au niveau du Parlement européen, ainsi que leurs divers champs de l'action publique auxquels ils peuvent apporter leur expertise ?
Alors, comme je disais, bon, moi, je suis un peu plus spécialiste du niveau local, mais on sait qu'à Bruxelles, les cabinets de conseil s'implantent de plus en plus fortement. Par exemple, pour avoir un ordre d'idée, entre 2014 et 2022, la Commission européenne a fait appel à 2700 opérateurs très divers dans le domaine du conseil. Alors ça va être parfois des grandes entreprises internationales, ce qu'on appelle en sciences politiques des multinationales du conseil. Odile Henry parlerait même de supermarchés du conseil, des cabinets type Ernst & Young, Deloitte, Accenture et ainsi de suite. On va aussi avoir des entreprises, voire parfois des associations plus confidentielles, qui peuvent proposer une activité qui s'apparente à du conseil, voire parfois des universités également, des universitaires qui peuvent être sollicités. Et donc, ces personnes vont être, ces acteurs, ces professionnels vont être sollicités dans à peu près tous les domaines d'action de l'Union européenne. C'est-à-dire que là où on en retrouve beaucoup dans le cadre de la politique de cohésion, on en a également dans les autres domaines. On les retrouve par exemple très fortement aujourd'hui dans les politiques de développement de l'Union européenne. On les retrouve aujourd'hui très fortement dans les politiques relatives à la recherche et à l'innovation. Donc on a vraiment à la fois une variété très importante de types de structures, c'est-à-dire qu'on a à la fois des très grosses structures, mais aussi des structures beaucoup plus confidentielles, et également une grande diversité d'activités. C'est-à-dire que ça va être aussi bien de l'évaluation que de l'accompagnement au montage de projets, ou ça peut être également du suivi de mise en place d'un certain nombre de réformes. J'ai une collègue, Marie Louam, qui a travaillé notamment sur le rôle des cabinets de conseil dans la mise en place des réformes structurelles dans différents États européens au cours de ces dernières années, notamment la Grèce. Donc voilà, c'est difficile d'avoir une réponse tout à fait délimité, parce que il y en a énormément, de plus en plus a priori, et ils couvrent des champs d'action aujourd'hui D'accord. toujours plus divers, ce qui veut dire, pour résumer, qu'en quelque sorte, ces consultants, dans le cadre de cabinets de conseil ou d'autres structures, finalement, constituent de plus une espèce de prolongement un peu de l'action administrative et politique des institutions.
D'accord, très bien. Et du coup, Madame Cosnard, vos clients vous sollicitent-ils plus sur certains champs de l'action publique que d'autres, notamment dans le financement de leurs projets ?
Oui, eh bien, comme je disais, on intervient beaucoup dans le champ de l'éducation, mais aussi de la culture, de l'économie sociale et solidaire, de l'entrepreneuriat, beaucoup dans le social. Et en fait, je dois dire que, donc, Eléo Conseil, mon cabinet, nous, on a le souci d'être au service des acteurs locaux, en fait. On travaille pas, et c'est un choix, hein, et on cherche pas à le faire, auprès de la Commission européenne. On travaille auprès des acteurs locaux pour les aider à accéder à des projets européens, à des financements européens qui, pour nous, ont du sens. Voilà. Donc, finalement, très souvent, nos clients sont des petites structures qu'on accompagne.
D'accord, très bien. Et du coup, Monsieur Lebroux, parmi les cabinets que vous venez de citer, certains sont-ils plus spécialisés dans un champ spécifique de l'action publique, par exemple, comme certaines ONG peuvent être spécialisées sur certaines questions environnementales? Est-ce que c'est aussi le cas pour les cabinets de conseil au niveau européen?
Oui, il y a clairement, comment dire, là aussi, hein, pardon, c'est des réponses assez larges, mais c'est-à-dire que là aussi, on retrouve un peu toutes les configurations. C'est-à-dire que plus vous allez vers des gros cabinets de conseil, c'est-à-dire on parle de plusieurs milliers de personnes, hein, plus vous allez être dans des situations où ces cabinets sont capables de traiter à peu près tout. Mais finalement, plus on va descendre en termes de, plus on va réduire la taille de ces cabinets, plus, c'est pas une règle absolue, hein, mais plus on va retrouver des logiques un peu de spécialisation. Cette spécialisation, elle peut être double, et j'en profite pour rebondir sur le propos de Maïté. C'est-à-dire que soit on va avoir des cabinets qui choisissent de se spécialiser un peu sur le transfrontalier, sur la culture, sur la formation. Ça les empêcherait pas forcément de faire d'autres choses en plus, mais ils peuvent faire le choix de se spécialiser pour des raisons assez diverses. D'ailleurs, on pourra y revenir. Mais il y a un point qui me semble intéressant là aussi et qui a été soulevé par Maïté, c'est le fait que on a aussi une certaine, coupure entre deux mondes en quelque sorte. C'est-à-dire que les recherches qu'on est en train de mener avec mes collègues tendent à montrer que les cabinets qu'on retrouve dans l'espace local sont pas forcément toujours des cabinets toujours très désireux d'aller à Bruxelles pour plein de raisons, parce que c'est pas simple, parce que c'est pas les mêmes clients, c'est pas les mêmes projets. Et donc on retrouve finalement, deux mondes assez distincts qui cohabitent, hein, dans cet univers européen, entre d'un côté ceux qui se spécialisent plutôt sur ce qui va se passer au sommet des institutions européennes et à l'inverse, les acteurs du consulting qui vont plutôt rester concentrés sur ce qui se passe à l'échelon local. Donc on va avoir des situations sectorielles et on va aussi avoir finalement des profils un peu différents en fonction de l'endroit où on se trouve. Si on est au niveau local, ce sera souvent pas tout à fait les mêmes profils que ceux qu'on va retrouver, par exemple, à Bruxelles.
D'accord, très bien. Il est maintenant temps d'approfondir notre sujet en évoquant les méthodes employées par les cabinets de conseil européens, l'expertise apportée, le traitement des demandes par leurs clients. Il va s'agir ici de revenir plus en détail sur les outils utilisés par les cabinets, sur les sujets européens, ainsi que leurs compétences spécifiques, afin de mieux comprendre le processus pour traiter les enjeux publics, faisant le lien avec la question européenne. Madame Cosnard, pouvez-vous présenter les différentes méthodes et outils utilisés par votre cabinet Eléo Conseil pour répondre aux demandes formulées par vos clients?
Alors, je vais me concentrer sur ce qu'on fait en matière d'appui au montage de projets, c'est-à-dire aider à candidater pour accéder au financement européen, puisque c'est presque toujours des appels à projets. Et puis, il faut candidater, donc bien expliquer. Et donc, chacun ayant son métier, nos clients, finalement, ils ont le métier de faire leur métier, mais pas forcément de parler dans le détail de ce qu'ils font, ni de candidater à ces financements. Donc ça, c'est notre métier et on travaille vraiment en partenariat avec nos clients. Je dois dire que les clients sont parfois amenés par notamment le Conseil régional des Pays de la Loire, puisque de Normandie ou de région Centre-Val de Loire, parce que on a un marché, hein, qu'on a gagné avec ces régions, qui consiste à aider les acteurs locaux à accéder à des financements européens, puisque c'est assez compétitif. Donc nous, on apporte cette expertise-là. En tant que petit cabinet, je dois dire que notre marque de fabrique, c'est un peu de nous adapter à nos clients. Nous, on connaît, on est experts, et d'ailleurs, certains gros cabinets viennent nous solliciter, hein, parfois ponctuellement sur des sujets très pointus que eux ne maîtrisent pas bien. On est experts, donc on va travailler de concert, et moi, je refuse à ce qu'on fasse des projets clés en main, c'est-à-dire que le projet, c'est celui de nos clients, c'est pas le nôtre. Donc on a de la méthode, on apporte toute cette méthode qui est assez techniques, hein, finalement. Il y a pas mal de technicité, mais on va toujours travailler avec les clients en les questionnant énormément, en utilisant leurs mots. On veut faire quelque chose qui leur ressemble, en fait, parce que derrière, c'est eux qui vont développer ce projet-là, donc on pourra continuer à les conseiller. Donc, on va, voilà, rédiger les candidatures, pourquoi ils montent un projet, qu'est-ce qu'ils en attendent. En fait, c'est toute la méthodologie de projet, qui ils sont, mais avec des mots compréhensibles par tous, parce que les gens qui vont évaluer leur projet ne sont pas forcément des spécialistes de tous les domaines, c'est des spécialistes des projets européens. Vous voyez, ce n'est pas la même chose.
D'accord.
Donc, qui sont, ce qu'ils veulent faire, pourquoi ils veulent le faire, qu'est-ce qu'ils en attendent, quels sont les résultats, concrètement, qu'est-ce qu'ils vont faire. Et ça, en utilisant un peu le jargon européen, mais surtout en étant assez factuel et en empêchant cette tendance globale qui va être d'essayer de généraliser et de philosopher, ce qui est exactement ce qu'il ne faut pas faire.
D'accord, très bien. Et Monsieur Lebroux, voilà. Les méthodes employées par les cabinets de conseil au niveau européen, au niveau des institutions européennes, sont-elles homogènes ou constate-t-on des différences fortes entre un cabinet traitant d'enjeux plus sociaux ou un autre davantage spécialisé sur les questions économiques ?
Alors moi, je suis toujours plus spécialiste, hein, comme je l'ai dit par ailleurs, de l'échelon local. Donc, je vais, si vous le voulez bien, moi, je vais plutôt me concentrer sur la réponse. J'ai plutôt étudié les cabinets comme celui de Maïté, hein, donc je suis davantage à même de vous répondre là-dessus. Elle a insisté sur un terme. Hein, si je vous propose une petite réflexion de sociologie politique, hein, elle a insisté Maïté où elle a utilisé un terme au début de sa précédente intervention, qui est ce terme d'appel à projet. D'appel à projet. C'est pas du tout quelque chose d'anodin, et les travaux sur le monde du conseil le rappellent bien, en fait. En sociologie de l'action publique, le fait de répondre à des appels à projets, c'est pas du tout quelque chose d'anodin, au sens où finalement ça contribue. Alors évidemment, les cabinets comme celui de Maïté essayent d'être très attentifs au contour du projet et de bien accompagner le projet en tant que tel, hein, c'est une évidence, mais malgré tout, le format appel à projet, c'est pas du tout quelque chose de neutre dans la mesure où ça contribue pas mal à formater, c'est pas un terme péjoratif, hein, formater, je veux dire par là que ça va un peu contraindre les porteurs de projets et ceux qui les accompagnent finalement à entrer dans une logique particulière. Cette logique, c'est celle qui consiste à essayer d'intégrer en amont les attentes, les attendus du financeur potentiel. Et donc en cela, très souvent, et je ne sais pas ce que Maïté en pense, hein, je serais ravi d'en parler avec elle, ce que très souvent, ce qui va se jouer dans ces situations-là, donc c'est évidemment monter un projet qui convienne aux porteurs de projet, hein, faire au mieux pour le client, mais c'est aussi monter un projet qui reprenne un certain vocabulaire, une certaine terminologie, certaines logiques, qui répondent à certains enjeux aussi, hein, c'est-à-dire qu'il soit donc un projet qui s'inscrive dans une logique éventuellement transdisciplinaire, dans une logique d'innovation, dans une logique de transversalité. Voilà un certain nombre de mots d'ordre qui font partie un peu du vocable européen, qui peut être intéressant à plein de points de vue, mais qui peut aussi du coup parfois être un peu enfermant ou un peu excluant pour certains projets qui entreraient plus difficilement dans ce cadre. Et l'appel à projet, il y a un deuxième effet qui est d'ordre plus gestionnaire, plus financier, c'est que finalement ça demande une rigueur assez forte sur la façon dont on envisage le financement de son projet et son déroulement. Alors vous me direz, bon, c'est normal, il faut être un peu carré, un peu précis, et évidemment je ne le conteste pas, mais il est important d'avoir en tête que ça peut contribuer à instaurer certaines barrières, c'est-à-dire que tous les projets et toutes les structures ne sont pas prêtes à un niveau égal à se conformer à cette logique de l'appel à projet, et donc à rentrer dans cette logique de contractualisation avec le financeur. C'est-à-dire que il faut être très précis sur ce que l'on veut faire, il faut bien décrire comment on va dépenser l'argent et bien utiliser une certaine terminologie. Donc ça implique finalement de se conformer à une certaine logique, de s'engager à faire un certain nombre de choses, et cela peut avoir des conséquences finalement assez fortes sur la structure en question.
Très bien. Et du coup, il est enfin temps d'aborder la dernière partie de notre sujet en traitant plus particulièrement des interlocuteurs privilégiés des cabinets de conseil européens ainsi que de l'environnement institutionnel à la fois donc aux deux échelles concernées. Il va s'agir ici de revenir plus en détail sur les relations humaines et les liens entretenus par les cabinets ainsi que les différents groupes, associations ou institutions pouvant être liés à ces structures. Madame Cosnard, quels sont vos interlocuteurs privilégiés de votre cabinet, à la fois dans votre clientèle et dans les éventuels partenaires avec lesquels vous travaillez ?
Alors, un de nos interlocuteurs privilégiés, c'est les conseils régionaux, puisque en matière de fonds structurels, c'est eux qui sont autorités de gestion, c'est-à-dire que c'est eux qui se sont mis d'accord avec la Commission européenne sur sur des programmes spécifiques, notamment le FEDER, le FSE+, Fonds social européen, le FEADER, la pêche et l'aquaculture. On travaille en lien avec eux. C'est aussi eux avec qui on travaille, parce qu'il y a pas mal de régions maintenant qui ont développé des marchés justement qui permettent à des acteurs locaux d'accéder au financement européen. Donc nous, on est là en tant que conseil, mais rémunéré par les conseils régionaux. Je travaille aussi avec l'agence Erasmus+ France, qui est basée à Bordeaux, hein, qui gère une partie des fonds Erasmus dédiés à la France. Donc on travaille beaucoup en lien avec eux, et puis on travaille beaucoup en lien avec nos clients, évidemment. Hein. Je suis dans le domaine, beaucoup de clients dans le monde associatif, local, enfin quand même beaucoup en Loire-Atlantique, hein, mais un peu aussi dans les autres régions. On travaille aussi avec la Maison de l'Europe aussi. Enfin voilà, finalement les acteurs qui sont actifs sur ces sujets-là, quoi.
D'accord, très bien. Et Monsieur Lebrou, les gros cabinets de conseil européens que vous avez cités tout à l'heure ont-ils aussi pour leur part des interlocuteurs privilégiés, notamment tous les gros noms de cabinets que vous avez cités en première partie?
Oui, alors ils boivent. Alors comment dire? Pareil, hein, si on essaye de penser les deux niveaux européens et local, là aussi, hein, plus on va aller vers des grosses commandes, vers des cabinets de taille importante, moins j'ai le sentiment que ces cabinets vont chercher à entretenir des liens privilégiés, dans la mesure où leur boulot en interne, ça va être de répondre à des appels, hein, à des appels à prestations, pardon, le terme exact ne revient pas, mais
appel d'offres,
voilà, exactement. Hein, donc plus, quand on est dans des gros cabinets, on va pas chercher à établir un lien très privilégié avec telle ou telle institution, on va répondre aux appels d'offres, et on est suffisamment équipé en ressources humaines et professionnelles pour répondre à un certain nombre d'appels d'offres qui font que finalement vous décrochez régulièrement des contrats. Donc les liens privilégiés, ils peuvent évidemment exister, hein, mais j'ai l'impression qu'ils sont quand même assez corrélés à la taille du cabinet, et plus on va vers des cabinets de taille plus réduite, hein, plus l'enjeu va être important d'arriver pour ces cabinets à établir des liens plus étroits avec des institutions, que ce soit au niveau européen, pour réaliser certaines missions, notamment des missions qui sont encore des missions un peu confidentielles. Hein. J'évoquais la question du développement tout à l'heure. Il y a des cabinets qui se spécialisent sur ces questions-là et qui donc vont entretenir des liens assez étroits avec la Commission européenne. Hein. Ils vont se faire connaître, ils vont être là dans les différentes rencontres. Et si je bascule, si vous le permettez, à l'échelon local, là aussi, on va retrouver des logiques finalement assez similaires, hein, puisque les gros cabinets de conseil, ces gros supermarchés vont aussi être présents au niveau national, alors peut-être un peu moins au niveau local, là c'est Maïté qui saura mieux dire que moi, mais j'ai l'impression qu'ils répondent quand même de temps en temps à des appels d'offres. Mais ce qui est sûr, c'est que on retrouve de plus en plus, et c'est quand même un phénomène marquant, des cabinets de taille plutôt confidentielle, plutôt assez réduite, qui vont se multiplier sur le territoire et qui, eux, pour le coup, vont essayer
d'accord,
de tisser des liens un peu étroits avec les administrations locales, dont ils sont d'ailleurs parfois issus.
Très bien.
Hein, souvent, il y a des cabinets de conseil locaux qui sont dont les fondateurs sont issus des administrations locales, et là va y avoir un enjeu important qui consiste à essayer de garder des liens avec ses anciens collègues ou avec les interlocuteurs locaux.
D'accord, et en guise de conclusion, du coup, nous allons aborder la question de l'influence réelle exercée par ces cabinets. Madame Cosnard, comment considérez-vous l'influence réelle que votre cabinet peut exercer sur les questions européennes à travers l'apport et l'expertise que vous donnez à vos clients?
Je pense qu'elle est modeste. Hein. Par contre, ce que nous, on souhaite, hein, à notre niveau, c'est vraiment permettre à certaines structures d'accéder à des financements européens, alors qu'on sait que sans nous, ils n'y arriveraient jamais. Donc, on a vraiment, notre influence, elle est vraiment pédagogique. On accompagne nos clients en les formant aussi.
D'accord, très bien.
Et aussi, c'est une façon de pérenniser nos relations et d'avoir de très bonnes relations en général avec nos clients, ce qui est notre souhait, quoi. On a envie d'avoir un métier agréable et d'avoir des bonnes relations avec nos clients contents.
D'accord, très bien. Et Monsieur Lebrou, du coup, la même question que je voulais vous poser, considérez-vous que les cabinets de conseil spécialisés sur les questions européennes influencent-ils d'une manière ou d'une autre les politiques élaborées au niveau des institutions européennes?
Alors, c'est une question complexe que je me permettrais peut-être de reformuler un tout petit peu sur la question des termes. Parce que quand on réfléchit à l'articulation entre sphère publique, sphère privée, très souvent, on a tendance, et il y a quelques affaires récentes en France qui nous le rappellent, hein, on a tendance à réfléchir effectivement en termes d'influence, de pénétration de ces cabinets un peu au cœur de l'État qui serait en train de démanteler l'administration publique. Alors qu'en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça, y compris au niveau européen. Ce qu'on constate avec mes collègues, c'est que en fait, ces cabinets de conseil, c'est pas tellement qu'ils influencent les politiques publiques européennes, c'est qu'ils les font. Finalement, au niveau européen, ce qui est très caractéristique du fonctionnement de l'Union européenne, c'est qu'il s'agit de ce qu'on va appeler en sciences politiques un État régulateur ou un État néolibéral, c'est-à-dire un État qui finalement, donc une institution, une organisation qui n'a pas tellement de moyens humains pour fonctionner et qui du coup, pour mettre en œuvre ses politiques, est un peu obligé de faire appel à des prestataires privés pour prendre un peu le relais finalement, pour prendre un peu le relais de son action en quelque sorte. Et c'est finalement quelque chose d'assez assumé, et on se rend compte qu'en fait, à tous les niveaux, pour le coup, hein, si on va du local à l'européen, ben on se rend compte que par le travail quotidien des cabinets comme celui de Maïté, ou des cabinets un petit peu plus importants, et ben on se rend compte que par leur présence, ils contribuent à façonner en quelque sorte un peu les politiques européennes. Bon, alors en cela, ils ont peut-être une influence, c'est-à-dire qu'ils contribuent à aller de plus en toujours plus loin dans cette logique un peu de la gestion par projet, de la gestion par appel à projet, avec ce que D'accord. ça implique en termes d'évaluation, de contrôle des dépenses et de contrôle des projets qui sont effectivement réalisés.
Ok, et bah très bien. Merci beaucoup pour vos interventions à tous les deux. J'espère qu'elles auront permis d'éclairer cette question pour nos auditeurs. Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir, à très bientôt. Bien.
C'était Enquête d'Europe. Une émission animée par les étudiants en Master 2 Sciences Politiques de l'Europe de l'Université de Nantes. Enquête d'Europe à retrouver dès maintenant en podcast sur euradio.fr.